De l'endurance et de la méthode où quand l'écriture fait emploi du temps, aujourd'hui un roman intérieur et un journal en poème avec Jean-Louis Giovannoni et Emmanuel Laugier.
Compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et c'est jusqu'à 16h. Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, un poème par jour pendant un an pour Emmanuel Laugier qui signe Chant tacite aux éditions Nous et 6 mois d'observation quotidienne, peut-être, dans l'échangeur souterrain de la gare Saint-Lazare, titre du roman intérieur que Jean-Louis Giovannoni fait paraître aux éditions Une. Deux journaux, apparemment, deux formes similaires, apparemment, mais rien n'est moins sûr. Alors qu'il ne s'agit ni pour l'un ni pour l'autre de la publication de vos journaux, qu'est-ce qui a imposé cette forme-là, Emmanuel Laugier, pour commencer peut-être. S'astreindre au journal, c'est d'abord écrire un emploi du temps, c'est écrire une disponibilité.
Alors c'est d'abord peut-être... revenir à une pratique ordinaire de l'écriture. C'est-à-dire, pour moi, dans tous les cas, la décision d'écrire ce journal, qui s'est ouvert effectivement, non pas le 1er janvier d'une année, mais le 19 août, pour se clore, ou le 20 plutôt, le 20 août, effectivement, pour se clore le 19 août de l'année civile suivante. Et c'est décidé, enfin, c'est... Je l'ai décidé pour pouvoir ne plus attendre l'écriture, pour finalement que ce journal soit un pari qui entremêle volonté et rendez-vous journalier, avec cette contrainte de toujours écrire quelque chose le jour même. Donc évidemment, j'ai commencé le 20 août. Et jusqu'à la fin août ou jusqu'à la mi-septembre, j'ai pu écrire quotidiennement quelque chose sur ce carnet, immédiatement en sachant que ce journal, ou disons la forme poème qui allait se traduire dans le rythme du journal, devait ne faire barrage à rien, c'est-à-dire si effectivement je n'avais, semble-t-il, rien à écrire, j'écrirais peut-être uniquement, la tâche sur le bois de la table que une cendre a faite, ou une tache d'huile, ou que sais-je, un papier raturé, c'est-à-dire qu'il fallait faire rentrer dans le carnet tout ce qui était de l'ordre de l'immédiateté comme
et de l'expérience.
De l'expérience, de l'immédiateté, mais aussi d'une expérience fictionnalisée, ou dans tous les cas, d'une expérience qui s'ignorait véritablement elle-même, c'est-à-dire une expérience qui peut-être faisait appel à d'autres choses, à des éléments qui n'étaient pas forcément sous mes yeux. Et de là que ce pari, effectivement, qui appelle le rendez-vous et la volonté, soit aussi une façon de construire une disponibilité. En fait, ce que je voulais par ce journal, c'était de ne plus attendre que le carnet s'ouvre pour que quelque chose s'y écrive à un moment donné, mais tout simplement me préparer tous les jours à une disponibilité qui pouvait acter le jour du journal.
Avec des rituels ?
Pas vraiment. Le seul point de méthode, et je mets le mot méthode au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'une. En fait, il y en a plusieurs combinées. Elles ne sont pas véritablement à connaître pour lire le livre. Elles me sont propres. Elles sont ésotériques, si on peut dire. Elles n'ont pas à être forcément exposées, mais je peux le dire pour évoquer la dynamique d'écriture du livre. C'est que c'est un journal d'un an, d'une année civile pleine, qui n'a pu s'écrire que sur 3 ans complètes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les moments où je n'arrivais pas à trouver cette disponibilité d'écriture le jour même où je devais écrire, où je me devais d'écrire, je me donnais la permission d'y revenir pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'avais le droit de revenir sur le jour non écrit passé, tout en écrivant le jour même qui chaque jour. Donc évidemment, si j'avais une semaine de retard sur mon carnet, il fallait que j'écrive 14 jours en quelque sorte. Et si je n'y parvenais pas, je me suis donné pour chacune de ces impossibilités le rendez-vous du même jour l'année suivante. Voilà, si le 4 janvier je n'arrivais pas pendant une semaine à revenir sur cette date-là, je revenais l'année suivante au 4 janvier pour me donner rendez-vous avec le carnet.
Des joies de la contrainte. Et pour vous, Jean-Louis Giovannoni, alors dont la forme du journal peut parfois flirter un peu avec quelque chose de l'ordre du parodique, on y reviendra. Hein. Ce journal choisit, en tout cas c'est ce que dit le narrateur, pour témoigner de ce qu'il voyait et imaginait. Choisir le journal, c'était choisir quoi ?
Bien, je pense que le journal s'est imposé comme ça, parce que c'était des textes courts, enfin, et que ce n'était pas un roman, donc je voulais pas faire un roman, bien que ça s'appelle roman intérieur, mais ça on reviendra peut-être
là-dessus. Bien sûr.
Ça s'est imposé parce que d'abord parce que j'allais dans l'échangeur souterrain de la gare Saint-Lazare. Peut-être pas aux dates qui sont marquées, mais enfin j'allais et je prenais des notes ou dans le café d'à côté. Voilà, donc ça s'est imposé comme un journal. Mais qui, vous avez raison, parodique, parce que c'est aussi une façon, de se moquer un peu du journal aussi, parce que c'est pas vraiment un journal. Enfin, enfin, je sais pas trop bien qu'est-ce que c'est, mais c'est pas un journal vraiment tenu des événements, puisque très très vite on dérape.
Ça vrille, hein, très vite.
Ça vrille très vite. Le narrateur, donc, s'égare très vite et puis il va même plus aller du tout dans l'échangeur, tellement il est envahi par ce qu'il a vu.
Par la foule. Alors, roman intérieur, justement, dites-vous, Jean-Louis Giovannoni, qui est un terme auquel vous avez déjà eu recours par le passé. Qu'est-ce que ça désigne, alors, au-delà du recours à la prose, hein, qu'est-ce qui n'en ferait pas de la poésie ?
Alors, roman intérieur, c'est à la fois, il y a une référence un peu psychanalytique. On parle de roman familial, vous voyez. Donc là, il s'agit d'un roman, mais entièrement intérieur. C'est-à-dire que c'est un monologue, en fait. Il s'agit d'un monologue, ce qu'on se raconte, finalement, à l'intérieur de soi. Enfin, c'est ce qui se passe, il me semble, dans ce livre-là, ou le journal d'un veau, qui est un veau, donc qui est aussi délirant que le personnage-là, mais qui se raconte son histoire et qui y croit, finalement, hein, parce que
Oui, c'est le plus sérieusement du monde.
Oui. Là, c'est très sérieux, là. Oui, c'est...
Alors, on commence par le tourniquet.
À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, j'ai compté 4 quarts et tant de pas perdus. À la gare Saint-Lazare, j'ai lu et j'ai relu tous les journaux du soir, mais tu n'es pas venu. J'interrogeais les visages des gens, j'avais le cœur battant, la tête qui tournait, j'ai cru te voir 100 fois à travers la cohue, mais ce n'était pas toi, c'était des inconnus. Et partout je t'ai guetté, j'ai couru les guichets, renversé les paquets, heurté les contrôleurs, bousculé les porteurs, pendant que sur les quais les foules s'embarquaient. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue.
À la fin de la chanson, Colette de Réal finit ronde comme un petit pois, dit-elle, sous l'horloge pondue de la gare Saint-Lazare. Vous, Jean-Louis Giovannoni, c'est l'échangeur de la gare Saint-Lazare qui est l'occasion d'une forme de vrille, en tout cas pour son narrateur. Ça commence par un projet d'étude, tout ce qu'il y a de plus sérieux, bien que délirant, en tout cas très rapidement délirant dans ses visées, ses manières rationnelles, hein, parce qu'une sorte de pesée, de description comptable de la foule qui franchit chaque jour les tourniquets de l'échangeur de la gare Saint-Lazare en question. 46 679 970, c'est difficile à dire. Personne par an, annoncez-vous, auxquels s'ajoutent les perdus, les paires de jambes, les orteils, les milliards de cheveux, l'air qui circule, les pelotes de poussière, les organes, les cellules. Le texte et son narrateur ont recours à tous les codes de l'étude, hein, s'adressent au lecteur, même à plusieurs reprises, hein, pour convaincre vraiment de la véracité. Hein. Je cite d'ailleurs, dans l'avant, ce que j'appelle l'avant-propos, mais vous l'appelez le « avant d'aller de l'avant », vous terminez en écrivant, enfin le narrateur termine en écrivant, « Si après cette lecture, vous doutez encore de la véracité de mes écrits, ce que je pourrais comprendre tant ce que je relate peut sembler invraisemblable, je n'aurais pour seul conseil que celui de vous inviter à aller au plus vite dans l'échangeur souterrain de la gare Saint-Lazare entre 7h30 et 9h30 le matin, ou le soir entre 16h30 et 20h30, pour confronter votre vécu à ce que j'ai écrit. Et là, vous verrez qu'il n'y aura pas grand-chose à ajouter. » Pourquoi fallait-il que ce soit Saint-Lazare ? Puis après, on va en terminer avec ce lieu.
Alors, c'est un lieu, évidemment, que comme de nombreuses personnes, j'ai fréquenté ou je fréquente de temps en temps, je pense. J'ai été toujours frappé par les escalators, les gens qui descendent, qui montent, enfin tout ce monde se précipite, on dirait vraiment une fourmilière. Et puis ça va dans, il y a plein de d'orifices, j'allais dire, on va vers telle ligne, telle autre arrive. Enfin, il y a une espèce d'échange permanent comme ça de gens, et d'une façon très dense. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est que moi, souvent, j'allais, j'en parle d'abord, le narrateur en parle, j'étais à contre-courant, j'allais dans l'autre sens des gens, et alors là, c'était pas possible. C'était pas possible parce que j'étais emporté par les gens, enfin, ils me laissaient pas passer, ils gueulaient après moi, enfin, on en venait presque aux mains, « Va, qu'est-ce que vous faites là ?» enfin, voilà. Donc, je sais pas, il y a ça, il y a la gare Saint-Lazare, évidemment, comme il n'y a pas que la chanson, mais c'est très chargé, hein, d'histoire, des impressionnistes, puis d'autres, Jules Romain, tout ça, qui s'intéresse aussi à la foule, voilà, et donc, il y a une espèce de mélange comme ça qui s'est fait. Ce lieu, d'abord, n'a pas de nom. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là, mais ça, je pouvais taper sur Google, mais vous ne trouverez pas l'échangeur, à part mon livre.
Si, on vous trouve, vous, maintenant, oui.
À part mon livre. Mais donc, je ne l'ai pas teasé comme ça. Maintenant, voilà, tout le monde, peut-être que tout le monde appellera ça l'échangeur.
Alors, si pour Baudelaire, on pouvait jouir de la foule, d'une certaine façon, qu'est-ce que ce motif vous permet à vous d'explorer, ce motif de la foule, hein, pardon?
La foule, c'est la multitude. C'est quelque chose d'incontrôlable, d'une force, une puissance incroyable. Justement, quand vous êtes à contre-courant de la foule, là, vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'une foule. Et puis, une fois que vous êtes dans la foule, vous aussi, vous supportez pas que les gens viennent à contre-courant. Vous avez pris corps dans la foule. Vous avez pris la forme, non seulement la forme de la foule, mais aussi les sensations, l'agressivité. Vous en faites partie. Si vous êtes à contre-courant, bon, vous êtes une victime. Et si vous êtes, si vous vous rangez, comme dit mon personnage, parce que finalement il suit les foules, c'est comme ça qu'il se retrouve en banlieue dans des endroits où il ne savait pas qu'il allait, parce qu'il suit les foules. Mais c'est beaucoup plus facile parce qu'à ce moment-là, effectivement, on est dans le mouvement de cette force très très grande d'une foule.
Alors vous vous attardez justement sur cette masse qu'est la foule, et puis il y a des moments comme ça de découpe, de points de détail, de plus en plus petits, puis de nouveau après la focale s'ouvre à nouveau, mais beaucoup de découpes quand même dans la masse, jusqu'à l'infiniment petit, jusqu'à la cellule, jusqu'à la poussière, jusqu'aux petites pelotes de poussière qui attendent de pouvoir, qui espèrent pouvoir être fabriquées au gré des mouvements de la foule. Ce mouvement-là, c'est-à-dire ce mouvement de l'infiniment grand à l'infiniment petit, à la cellule, c'est quelque chose qui travaille par ailleurs votre écriture, hein, déjà dans des recueils précédents, dans des livres précédents. Qu'est-ce qui tient tant votre écriture au corps? Et au corps pris comme tel, hein, c'est-à-dire comme une surface ou comme, comme une découpe?
Je l'ai dit souvent, mais je pense que le corps chez moi n'est pas. C'est plutôt la peur, la crainte, l'étonnement, le questionnement du corps qui est au centre plutôt de ce que je dis, plutôt qu'une, vous voyez, une, je parlerai du corps, de son érotisme. Il n'y a pas d'érotisation, très peu dans le corps dont je parle. C'est toujours un corps qui est un peu aux abois, toujours un corps qui est menacé, qui se pose des questions sur son intégrité, en tout cas dans ce livre-là. Bon, alors, évidemment, c'est en référence, je peux pas le cacher, au travail que j'ai exercé pendant plus de 35 ans avec des schizophrènes, hein, des psychotiques. Et ils y sont d'abord dedans. Et je pense que si même, enfin, je m'en suis aperçu à la fin parce qu'au début je savais pas très bien qu'est-ce que je faisais. Je pense qu'il y a un hommage à eux. C'est comment construire finalement un délire, quelque chose qui tienne dans quelque chose d'intenable. Puisque bon, là, l'échangeur est quelque chose. On veut pas camper. Hein, à part les gens qui émandent, qui restent là, qui sont complètement bousculés, c'est pas un endroit où on vient s'installer pour manger son casse-croûte. Vous voyez, donc cette construction, qui effectivement, vous l'avez un petit peu souligné, délirante, c'est comment tenir un discours qui tiendrait, en tout cas pour soi, enfin c'est pour le narrateur, qui tiendrait et qui pourrait le maintenir, qui maintiendrait peut-être son unité, puisqu'il s'agit bien effectivement dans ce livre-là de la désintégration peut-être du sujet, qui est peut-être menaçante, ou qui l'a menacé, ou on ne sait pas très bien. Et la multitude réveille ça, c'est-à-dire que on ne sait plus très bien. Enfin, lui se demande s'il en ramène pas chez lui des morceaux des gens qu'il a rencontrés,
ou
si
la foule collée sur le dos.
Oui, voilà, il est complètement traversé dans ses nuits, dans ses rêves par cette foule.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire
oui.
un extrait, Jean-Louis Giovannoni?
Vendredi 18 janvier. Où vont ses jambes? Au décompte, il en manque toujours. Comment reconnaître celles qui s'égareront de celles qui retrouveront le chemin? Je m'y perds moi-même. Il n'est pas facile de mémoriser la morphologie de chaque jambe. Elle se déplace tellement vite. Peut-être qu'en les réunissant par deux. Seront-elles semblables? J'en doute. Dès qu'elles diffèrent, même de peu, la cohérence de l'ensemble est détruite. Si on associe une jambe courte à une plus longue, on encourage la fabrique future de monstres. Cette petite différence infime au démarrage augmentera de génération en génération jusqu'à produire un jour l'irréparable, une jambe atrophiée naissant à côté d'une scène. La nature est ainsi faite. Elle essaye des possibles et les répète ensuite à loisir. Membres, organes et têtes sont les fruits de ces essais. Comme l'harmonie, par ses proportions bien gardées, est d'une monotonie affligeante, les dysmorphies, toujours en mal d'incarnation, s'en donneront à cœur joie si on leur lâche la bride, en se collant sur ceux qui se présentent jusqu'à faire peur. La monstruosité ne vit pas sur une autre planète. Elle voisine souvent près de la beauté, qu'il suffit de retourner comme un gant. À se demander si elles ne sont pas sœurs jumelles. Un léger déplacement dans un sens ou dans un autre, un éclairage différent, et c'est l'une ou l'autre qui surgit, chacune voulant dominer sa voisine. Les visages qui hésitent, ne sachant à qui se vouer, nous angoissent. On les évite de crainte qu'ils ne se reportent, qu'ils reportent leur dévolu sur nous, viennent perturber notre fragile équilibre. Adieu n'est parfait, bouche ourlée. Beauté ou monstruosité sont un choix dont notre chair n'a que faire. Elle prend ce qui lui vient sous la main, nous le colle dessus et nous avons une figure. Si nous avions trois nez et quatre bouches, qui en rirait? En quoi une jambe mal dessinée serait inférieure à celle d'un top modèle? N'est-elle pas une jambe au même titre que les autres?
Merci. Vous voyez sourire, opiner, et même prendre des petites notes, Emmanuel Lougier. J'ai pas le droit de savoir ce que vous avez
dit. Si, non, je prenais des notes par rapport au fait que, à quelques mots comme ça, parce que Jean-Louis parlait, puis évoquait là ce moment où d'un seul coup, je me souviens dans l'échangeur, il note voir un jeune homme au visage angélique et qui tourne son profil et d'un seul coup le visage devient monstrueux. Et c'est vrai que ce que travaillent les livres de Jean-Louis, qu'ils prennent la forme de romans intérieurs ou ceux de poèmes, je pense notamment à l'Élection, qui est paru il y a presque 20 ans maintenant, hein, et qui était aussi une embardée assez folle dans le travail de Jean-Louis, puisque là où on attendait qu'il écrive peut-être quelque chose qu'il avait déjà commencé à écrire, eh bien justement il lançait une quille pour tout effondrer. Et effectivement, dans l'Élection, qui est un livre aussi paranoïaque, hein, presque, travaille aussi bien la volonté de puissance d'élection du sujet, donc hein, celui qui voudrait avoir le seul visage qu'il peut affirmer, hein, pour empêcher en quelque sorte le monstre de venir glisser sur son propre visage. Donc comment empêcher la duplication, la duplicité, comment empêcher le double en quelque sorte, hein. Ce livre travaillait à ça et travaillait aussi à une sorte de résistance de ce même sujet à la dévoration de la foule. Et il en parlait très bien. Je trouve assez puissant que, son écriture nomme aussi bien la folie que de penser qu'un visage ne peut être double, comme celle, finalement, d'une sorte de normalisation dans laquelle la foule, finalement, veut faire entrer le sujet, hein. C'est-à-dire, si tu veux respirer, il ne faut que tu ne respireras qu'à la cadence de notre poumon général, en quelque sorte, hein. Et dans son travail, ces deux risques sont toujours face à face avec évidemment des moments de rage et de rage calme, j'allais dire, hein. D'ailleurs, quand Jean-Louis lit, il y a une sorte de rage calme, je trouve, qui façonne sa diction.
Voilà. C'est vrai.
Il est bien, hein.
Je voudrais revenir à vos jambes, Jean-Louis Giovannoni, en tout cas aux jambes de l'échangeur, ou aux vôtres si vous voulez, mais à celles de l'échangeur souterrain de la gare Saint-Lazare, hein. Donc on a entendu l'extrait que vous venez de nous lire. Un peu plus loin, lundi 28 janvier, le narrateur écrit « On m'ôte souvent quand je dors un bras ou une main sans que je sois mis au courant et on les remplace par d'autres pris au hasard chez ceux qui passent dans les parages. Ils diffèrent parfois de peu. C'est à l'usage que je sens qu'ils ne sont pas d'origine. Peut-être appartiennent-ils à des proches ou à des voisins dont les rêves se promènent eux aussi sur les toits avec les miens. Que cette valse cesse, je ne veux plus de ces membres errants, mais de ceux que père et mère m'ont donnés. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils parlent au moins ma langue. Mère vient souvent le soir dans mes mains ou sur le bord de mes yeux. Quant à père, il court le plus souvent en moi à grandes enjambées, dès le lever, qu'il est bon de les sentir remuer à l'intérieur de soi. » De quoi serait faite, alors vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Jean-Louis Giovannoni, mais de quoi serait faite cette angoisse du narrateur et finalement, quelle question cette folie-là, entre guillemets, ou ce délire-là, pose-t-il au langage à proprement parler ?
Alors, ce personnage n'est pas vraiment un névrosé. Enfin, on aura compris quand même. C'est plutôt, il est psychotisant, je veux dire. Hein. Je veux dire, dans la psychose, il y a quand même cette unité du corps, cette image corporelle, comme on parle, qui n'est pas homogène, hein, qui n'est pas homogène et qui est soumise quelquefois, dans certains cas, la dissociation, mais j'allais dire même à l'explosion, hein, de l'unité du sujet. Donc j'ai introduit effectivement dans ce narrateur quelque chose de cet ordre-là. Hein, alors c'est la question que vous posez par rapport au langage, les patients sont très forts sur la langue. Hein. Faut savoir que je dis pas que ce sont des poètes, des philosophes, mais la langue les intéresse parce que au plus haut point parce que c'est vital, parce qu'ils essayent de dire quelque chose avec cette langue. Et ce que j'ai appris à leur contact, c'est de travailler avec ce que j'appellerais le pied de la lettre, c'est-à-dire prendre au pied de la lettre ce qui est dit. Hein. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de concrétude de la langue qui apparaît dans le discours psychotique. Hein. Et là, c'est appliqué effectivement à l'écriture, ce qui déplace évidemment on l'aura compris, qui déplace la narration ordinaire, puisqu'elle est à la fois faite d'éléments réels, qui sont tangibles, d'où même le démarrage où on comptabilise des choses assez idiotes, même, il faut dire, folles, mais
c'est... Impossible, en tout cas. En tout cas, un réel impossible, ça c'est sûr.
Les cheveux, c'est très compliqué, oui. Et ce qui est intéressant, c'est comment le discours, d'un seul coup, sur un tout petit pivot d'interprétation, glisse dans tout à fait quelque chose qui est une construction délirante. Dans le délire, c'est un point très important. Le délire, c'est pas qu'un signe de maladie, c'est même peut-être le contraire. C'est peut-être même une création. C'est quelqu'un qui essaye. En fait, le délire, c'est une tentative de se soigner. Hein. C'est quelque chose de tentative de sortir par le haut, j'allais dire. Et le délire est toujours une construction. Construction à remettre toujours en chantier parce que ça tient pas longtemps. Ça ressemble à nos constructions personnelles qu'on a névrosées moyens, mais moins angoissantes et moins angoissées en tout cas sur l'unité de notre corps. Le névrosé, il sait très bien qu'il fait corps. Enfin, même s'il est très élastique, le névrosé est élastique. Il retombe toujours sur ses jambes.
Sur son unité.
On peut le jeter n'importe. Vous savez, il y a des jouets comme ça, on les jette n'importe comment, il retombe toujours sur le. C'est un peu ça le névrosé. Psychotique, c'est pas sûr qu'il puisse se lancer n'importe où, parce qu'il est pas sûr qu'il est retombé. D'abord, il faut qu'il ait des pieds qui soient au bon endroit, des jambes au bon endroit, et ainsi de suite. C'est ça que j'ai essayé d'explorer. Il me semble, ce qui n'a pas été facile pour moi. Pas facile parce que on entre dans un domaine, là, qu'on fréquente pas. Enfin, le névrosé moyen que je suis fréquente pas, voyez, ce genre de délire. Mais qu'est-ce que c'est que, de s'intéresser à cet infime, c'est vrai que je m'intéresse en tant que poète aux choses infimes, mais c'est la rencontre entre mes préoccupations, moi, et puis, une exploration. Pour moi, ce livre est une tentative d'explorer quelque chose d'un discours qui a du mal à s'unifier, mais qui, évidemment, il a un côté arbitraire. Alors, je vous dis que c'est comme ci, c'est comme ça, parce que ça, c'est bien connu. Enfin, c'est pour affirmer, pour avoir un point d'appui, que le narrateur insiste d'une façon oratoire très importante, mais en même temps on sent très bien que ça s'effrite d'un passage à l'autre. Hein, il est obligé de reconstruire à chaque fois, refaire sa pelote, j'allais dire, non pas seulement de poussière, mais de narration.
Parce un que peu comme tient... vous, ça veut dire que pour vous aussi, de l'écrire, ça a été comme ça?
Oui, ça a été pénible. Oui, c'était très très difficile pour moi parce que je comprenais pas ce que je voulais écrire. Donc, j'ai suivi le narrateur où il allait. Hein, donc, j'ai pas très bien compris au démarrage, même à la fin. Enfin, j'ai fallu un certain temps pour que je comprenne qu'est-ce qu'il voulait dire ce livre-là. Voilà. Mais c'est un peu comme ça que j'écris aussi, c'est-à-dire que en fait j'ai une idée, évidemment c'est une obsession qui est là, et puis après comment ça va s'écrire, je sais pas parce qu'il faut que je l'écrive, je peux pas savoir à l'avance comment je vais l'écrire. J'avais pas comme Emmanuel des contraintes, mais c'est intéressant les contraintes aussi parce que ça donne une contrairement à ce qu'on pense, ça donne une grande liberté. Moi j'étais moins libre d'une certaine façon puisque je ne savais pas où j'allais mettre mes pieds, j'allais dire. Il fallait que je suive ce narrateur qui m'apparaissait étrange, qui était là un peu moi et pas moi.
Mais au préalable, vous saviez ce que vous alliez chercher en allant malgré tout vous poster comme ça de façon très régulière dans cet échangeur avec un petit carnet.
Alors, ce qui est très important, c'est je savais quelle était mon angoisse. C'est plutôt parce que je pense que le livre il se construit, enfin à peu près comme à peu près tous les livres que j'écris, d'abord, se construit à partir de peur ou d'angoisse.
C'est-à-dire que l'écriture a forcément à faire avec l'effroi ou la terreur, pour vous.
Mon premier livre s'appelle Garder le mort, vous voyez, c'est rien que le titre.
C'était en 1974.
Et oui, je pense que... Alors, on pourrait dire que c'est une défense, mais c'est plus que ça. C'est pas une défense, c'est pas une parade pour parer l'angoisse qui vient, mais c'est plus pour essayer de peut-être de l'épuiser, enfin de me faire d'être m'accoutumer à cette angoisse peut-être qui la multitude m'a toujours énormément préoccupé quand on est énorme. Bon. Alors en général je suis quelqu'un de très docile dans la multitude, je me fonds complètement dedans, je suis minuscule quoi, j'essaye pas de jouer des coudes comme il y a des gens qui essayent dans les foules, je fais passer devant. Non, moi je suis très sage, mais je sens à ce moment-là cette multitude, c'est ce débordement, hein, c'est parce que c'est une image la multitude, mais c'est aussi une force physique, des forces physiques. À ce moment-là, il y a tout le problème de l'unité du sujet. Le sujet disparaît, non, là, non. Le sujet.
C'est bien ce qui arrive au narrateur, d'ailleurs, hein, oui, progressivement.
Oui, progressivement, il disparaît. Enfin, il est. En même temps, il disparaît, mais il est de moins en moins angoissé, je trouve, vers la fin. Il finit par être dans la mer, enfin, de se confondre avec.
On dira rien de la fin. Sur ses jambes, pardon, ça doit être la mienne d'obsession, donc ses membres inférieurs, ses jambes multipliées ou dissociées, ou sectionnées, ou démembrées, qui travaillent quand même une bonne partie du texte, qui reviennent régulièrement, mais pas seulement jambes, pieds, talons, orteil, calcanéum, si je ne dis pas de bêtises, alors les chaussures, toute une digression sur les chaussures aussi, tout ce qui fait appui. Et l'appui, c'est quelque chose qui vous obsède, en tout cas c'est vous qui le dites, hein, c'est une autre de vos obsessions. Cette question d'appui, c'est d'abord une question d'écriture.
Ah non, je pense que c'est l'écriture cherche
l'appui.
Cherche l'appui, oui. C'est qu'est-ce qui dans un sujet est le lieu de son appui, sur quoi il se tient. La psychanalyse, il y a beaucoup travaillé. Je pense à Winnicott ici. C'est comment quelqu'un se tient à l'intérieur de lui-même, comment il peut s'asseoir, j'allais dire, se tenir. Voilà. Oui, c'est une obsession pour moi très, très importante.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manon Farid.
Toujours avec Jean-Louis Giovannoni et Emmanuel Laugier qui signait Chantacite aux éditions Nous, soit 365, je sais pas si 65 ou 64, 65, 365 poèmes courants, donc méthodiquement du 20 août au 19 août de l'année suivante, un poème par jour donc, comme vous l'avez dit, journal en poèmes, plus que recueil de poèmes. Un mot peut-être déjà sur... j'allais dire un mot, mais non, en fait, la question est énorme, sur cette question du chant tacite, hein, et de cette éventuelle contradiction qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est-à-dire la possibilité peut-être d'un lyrisme et dans le même temps son silence. Comment est-ce qu'il faudrait comprendre ce terme
Je peux dire moi comment j'ai compris l'évidence de ce titre qui vient de plus je peux le dire mais qui est arraché en quelque sorte à une réflexion de Maurice Blanchot sur l'écriture de Beckett. Alors évidemment j'arrache pas le mot à Blanchot pour qu'il résonne uniquement dans ce qu'il dit de Beckett, mais je l'ai arraché à Blanchot. Et ça a été pour moi l'évidence même de alors que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les titres en général, enfin de moins en moins aujourd'hui, mais avant oui, il s'est imposé parce que le processus d'écriture du jour le jour comprenait effectivement la possibilité du chant, d'un chant si à un moment donné on était pris d'une sorte de joie de réussir à amener la phrase jusqu'au bout au jour même, mais en même temps évidemment pour moi il y avait une sorte d'obscénité à ce que la phrase finalement fasse uniquement chant. Alors j'ai toujours été dans une sorte de rapport comment je peux dire, un rapport contrarié, ou dans tous les cas un rapport de perplexité au lyrisme, et à une certaine forme de lyrisme. Mais certaines écritures peuvent être extrêmement minimalistes, me toucher très profondément, comme elles peuvent être extrêmement lyriques. Je pense là notamment à Hopkins, par exemple, ou des poètes comme ça, dont on peut pas ne pas dire qu'il y ait une sorte de chant à l'intérieur de leur projet d'écriture. Mais lorsque le chant devient puissant, évidemment, il m'appelle autant que peut-être ce mot. Chant dans Chantacite. Mais moi, j'ai toujours compris ce titre, bien que le livre en fait définisse le Chantacite à sa façon. Et je pense que c'est au lecteur, en quelque sorte, dans ce jour le jour, de trouver l'endroit du Chantacite qui viendrait en quelque sorte lui parler de quelque chose. Alors je ne sais pas de quoi, puisque quand on lit un livre et qu'on en est le lecteur, on prend des choses qu'on ignorait avant même d'ouvrir le livre. Mais en quelque sorte, on fabrique le lieu de sa propre expérience, et peut-être que celle que j'ai voulu construire dans ce livre est celle de ce Chantacite.
Un poème par jour, Emmanuel Laugier, même s'il vous est arrivé de ne pas vous y tenir, ça change le jour ?
Ça change le jour, oui, ça le change, parce qu'on n'écrit pas forcément... on n'écrit pas forcément dans l'adéquation du jour même. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux tout à fait écrire en plein mois d'août une sorte de glaciation qui prendrait le sujet. Hein. Donc il n'y a pas forcément, en quelque sorte, il n'y a pas à chaque fois une adéquation entre le jour où j'écris quelque chose et l'expérience que je raconte.
Parler de l'expérience, mais le fait même de l'écriture, c'est-à-dire le fait de s'astreindre à ce rendez-vous,
oui.
De devoir écrire chaque jour, oui. Sans vouloir faire rentrer, il ne s'agit pas de faire rentrer le monde, l'expérience dans le poème, mais simplement le fait de devoir s'astreindre chaque jour à cet exercice-là, est-ce que ça modifie au fond l'expérience d'une vie sur un an.
C'est difficile de répondre à cette question, mais je crois que je peux que dire oui. Effectivement, ça modifie le jour, parce que ce qui est écrit le jour même va rester du jour au lendemain, et peut-être conditionner ou appeler l'écriture du lendemain, donc laisser une forme de trace. De la même façon que le jour non écrit, finalement, compte aussi pour l'écriture du livre, parce que elle appelle le rendez-vous de l'année suivante, hein, bien sûr, mais elle rentre aussi dans le livre comme une sorte de rature, c'est-à-dire ou de rature ou de blanc, c'est-à-dire le jour non écrit peut être un jour raturé, c'est-à-dire quelque chose a été écrit, a été noirci, est devenu illisible, finalement à la fin il n'y a rien, c'est de la même façon que si c'est un blanc, bon, ce blanc-là peut en quelque sorte résonner mentalement. Hein.
Mais est-ce que ça veut dire que, par rapport aux autres années, vous passez des journées aux aguets, c'est-à-dire aux aguets disponibles à ce rendez-vous?
Ça force à une attention, oui. Ça force à une attention. De la même façon que tout devient matériau de l'écriture. Quelqu'un qui trébuche et qui tombe, le récit que vous fait un ami, le livre que vous lisez... Je donne un exemple un peu dramatique, mais dramatique par l'événement historique qu'il convoque. Lorsque j'avais vu Shoah de Claude Lanzmann, comme beaucoup de gens, il y a longtemps, à un moment donné, j'apprends que sur une chaîne télévisée, il repasse Shoah de Claude Lanzmann deux soirs d'affilée, 4 heures, puisque le film fait 4h30, fait 9 heures en tout. Je décide ce jour-là de revoir Shoah, et je passe 4h30 donc chez moi à regarder le film sans savoir quoi faire de moi-même à la fin du film. Je sais plus quoi faire de moi-même. Je me redonne rendez-vous le lendemain matin, le lendemain soir avec la deuxième partie du film, et pendant un mois je suis hanté par le film et par tout ce que j'ai pu lire sur ces événements-là, les livres d'histoire d'Hilberg, enfin bref, tout Holocauste de Reznikov, etc., etc., par toute une littérature testimoniale. qui entoure ces 9 heures passées à regarder Shoah. Et pendant plus d'un mois, tous les jours, s'écrit quelque chose à travers la mémoire de moi, spectateur de ce film, et de toute une mémoire multiple qui m'est revenue. De la même façon qu'ensuite, ça va au-delà de ce mois, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, au mois d'août, quelque chose, à nouveau, un lambeau de ce mois-là va se réécrire encore autrement.
Alors, tel poème est écrit tel jour en lisant un poète, en pensant à un poète, à partir d'un poème, d'une photographie, d'une peinture ou d'après un film. Alors, il y a là, notamment, pas seulement, mais il y a là Franck Venaille, Jean-Patrice Courtois, Mandelstam, L'Inconnu du Lac d'Alain Guiraudy, D'Est de Chantal Akerman. Et puis, il y a comme une présence qui insiste tout au long de l'année, et c'est celle-ci.
Nous n'appartenons qu'aux sentiers de montagne qui serpentent au soleil entre la sauge et le lichen et s'élancent à la nuit, chemin de crête, à la rencontre des constellations. Nous avons rapproché des sommets la limite des terres arables. Les graines éclatent dans nos poings, les flammes rentrent dans nos os. Que le fumier monte à dos d'homme jusqu'à nous, que la vigne et le seigle répliquent à la vieillesse du volcan. Les fruits de l'orgueil, les fruits du basalte, mûriront sous les coups qui nous rendent visibles. La chair endurera ce que l'œil a souffert, ce que les loups n'ont pas rêvé avant de descendre à la mer.
La voix de Jacques Dupin en octobre 1975 sur France Culture, lisant Grand Vent dans Poésie ininterrompue. Jacques Dupin disparu en 2012, si je ne m'abuse, très présent dans ce poème, j'allais dire dans ce recueil, mais c'est moins un recueil finalement qu'un livre.
C'est un livre, oui.
Dans son ensemble. Dupin qui est même présent à la date du 4 mars, qui date de la naissance de Dupin. Est-ce qu'il, alors sans vouloir à tout prix tout raccrocher à tout, mais néanmoins, est-ce que Dupin pourrait avoir d'une certaine façon un lien avec votre propre naissance à vous ? À la poésie, à l'entrée en écriture.
Oui, certainement. Évidemment, il n'est pas le seul. Il y a une multiplicité de voix, mais
oui, sont nombreuses
dans ce livre-là. Bon, et puis il y en a bien d'autres qui ne sont pas nommés. Mais effectivement, la lecture de Jacques Dupin a été très précoce. C'est mes professeurs de lycée qui m'ont fait découvrir Dupin, en même temps que des gens comme Duboucher. À la bibliothèque municipale où j'allais à l'époque, j'ai découvert au lycée les premiers livres de Jean-Louis, qui m'ont
Giovannoni.
De Jean-Louis Giovannoni, pardon. Et notamment toute cette question liée aussi à l'articulation avec, on disait, les psychotiques, la question de la folie, que je croisais avec ces questions-là auxquelles se confrontait aussi bien Michaud, mais que aussi Jacques Dupin, ouais. Puisque l'un des livres qu'il écrit à un moment donné, qui s'appelle Les Mères, en 81, fait retour sur le fait qu'il a été élevé, enfant, dans l'hôpital psychiatrique de Privas, qui à l'époque, donc dans les années 30, est le plus grand hôpital psychiatrique de France, qui comprend 5000 patients, et son père est l'un des grands psychiatres français, qui déjà lit Freud, lit toute une littérature psychanalytique est importante et d'avant-garde à l'époque. Le lien avec Jacques Dupin, je sais que tacitement, je pourrais dire, il passe par cette attention qu'il a eue à ce qui n'a pas de langage, à ceux qui n'ont pas la matière verbale. Alors un peu à la différence peut-être du recours du psychotique au délire parlé, mais à ceux qui n'ont pas de langage. Et effectivement, tous ces livres sont tentés par cette question-là aussi. Hein. Alors après, pour dire en un mot, je suis assez ému d'entendre sa voix parce que c'est quelqu'un qui a été très proche. Je l'ai fréquenté pendant presque 20 30 ans, ou même plus, chaque semaine. J'ai passé parfois des semaines avec lui dans les Pyrénées-Orientales où il avait son mas, donc a aussi bien parlé de rien, d'une buse qui passait dans le ciel, que d'une touffe de thym qu'il écrasait avec son pied. Donc c'était quelqu'un qui était comment très taiseux en quelque sorte, hein, mais à l'intérieur de cette espèce de présence réfractaire, c'est comme si il m'avait glissé quelque chose, alors que j'ai construit effectivement moi-même par la lecture, par l'écoute, par comprendre ce qu'il disait à demi-mot. Mais ce qui était très beau chez cet homme aussi, c'est que à partir du moment où il y avait un rapport de confiance qui était donné, malgré les 41 années qui nous séparaient, et je le dis dans les poèmes qui ont été écrits pendant un mois après sa mort, donc le 27 octobre 2012, malgré ces 41 ans de différence, à partir du moment où il vous donnait sa confiance, vous étiez son égal. C'est-à-dire que s'il vous parlait, lorsqu'il m'a parlé en quelques phrases du premier livre que j'avais pu écrire en 96, qui était paru, il disait trois petites choses comme ça, mais il en parlait comme si vous étiez au même niveau que vous. Il n'y avait aucun surplomb, en tous les cas, dans l'attention qu'il portait aux gens qu'il estimait ou qu'il écoutait. Et ça, c'était vraiment une très belle expérience aussi.
Puisque vous évoquez, puisque nous évoquions Jacques Dupin, alors peut-être pourrait-on aussi écouter une autre voix. Et là, véritablement une voix, puisque c'est comme ça que vous la désignez, qui traverse votre livre Emmanuel Laugier.
Voilà, c'est vous. Oh merde.
Ici, Deligny, cette espèce de bonhomme. C'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un l'apprend?
Ce qu'on entend, c'est un bref extrait du Moindre Geste, hein, le film entre documentaire et fiction réalisé par Fernand Deligny en 71, enfin notamment par Fernand Deligny, un film tourné dans les Cévennes, sorte de manifeste pour une cure libre à destination des enfants en souffrance psychique et en particulier des enfants autistiques. Deligny, dont la voix et les images donnent lieu à une séquence hein, de poèmes Emmanuel Laugier, enfin plusieurs poèmes en tout cas, je vais même vous laisser en lire un, de Deligny et ses cartes et lignes d'air. Je vais même vous laisser nous expliquer ce que c'est que ces lignes d'air. Peut-être avant que vous nous fassiez lecture, quelle question ou quelle réponse quelqu'un comme Deligny a-t-il pu vous donner en termes d'écriture justement, en tout cas tel que vous l'envisagez?
Alors, je ne sais pas si la lecture de Deligny que j'ai commencé il y a quelques années, à travers les livres qui existaient, et surtout l'œuvre qui a été publiée aux éditions L'Arachnéen, avec la correspondance dans les Cévennes, en Cévennes, mais l'œuvre elle-même que j'ai commencé à lire il y a quelques années, je ne sais pas encore véritablement si sa propre écriture, sa propre façon, dont on a entendu l'inflexion de sa voix, qui est presque la même quand il écrit, je ne sais pas encore bien ce qu'elle va me donner, parce que c'est une lecture lente que je fais au crayon et qui va peut-être dérouler sa matière dans la matière de demain, que sera peut-être un livre que j'écrirai, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que la question du sujet de l'enfant qui n'a pas encore le langage ou qui ne l'aura pas, donc la situation des autistes, pour ne nommer par exemple qu'eux, dans leur, toute leur diversité, est une question qui a composé ou qui a creusé certains de mes livres avant même que je lise Deligny. Donc les pierres de Deligny, elles viennent à moi maintenant, mais les questions de celui qui n'a pas de langage s'étaient posées, notamment dans plusieurs livres que j'ai écrits, mais notamment dans un où j'avais organisé en quelque sorte le chemin du livre à travers des couleurs qui disposaient des champs lexicaux. Et le dernier mot de ce livre, qui est suivante, qui est paru il y a une quinzaine d'années, se terminait par la position de celui qui n'avait pas de langage, et le texte disait que s'il y avait une seule place à donner pour que la parole puisse être écoutée, il fallait qu'elle le soit à celui-là qui n'avait aucune parole. Et donc, effectivement, ce que dit Deligny de la situation de celui qui n'a pas de parole, non pas pour dire qu'il faut absolument qu'il en ait une, mais que dans ce sans-langage-là, il faut qu'il puisse exister, m'a toujours paru quelque chose de politiquement essentiel. Sans compter que pour répondre à la question des cartes et des lignes d'air, en plus j'ai trouvé une phrase dans le livre de Jean-Louis du 18 mars qui dit « Dans l'enfance, la sécurité des bras me l'a appris, et je hurlais si on ne me reprenait pas. L'assise première se construit par exercice répété jusqu'à nous pénétrer peu à peu, bras fermes, soutènement s'il en est, balcon aérien, où plus rien ne peut nous atteindre, etc. »
Corps de l'appui.
Ouais. Les lignes et cartes d'air, ce qu'elles figurent dans le livre qui porte ce titre-là, ce sont les trajets réalisés par les adultes qui accompagnaient ces enfants-là, dans un espace donné, entre l'évier Sévenol, la rivière, l'endroit où on fait la cuisine, et les lignes et cartes d'air, à un moment donné, par une sorte de zigzag dessiné le moment où l'enfant lâche la main de l'adulte. C'est-à-dire, cet enfant sans langage, à un moment donné, se sent suffisamment dans une confiance et donc dans une souffrance qui est amenuisée pour lâcher la main de l'adulte et faire lui-même le trajet, par exemple, du feu de bois jusqu'à l'évier. Et ces espèces de dessins non-verbaux, calqués sur ces lignes et cartes d'air, c'est peut-être ce que j'ai essayé d'interroger, de dire dans les poèmes qui font hommage à Deligny. Est-ce
que vous pouvez nous en lire un ? Parce que...
Oui.
Merci.
Le poème du 25 avril. La pierre à dés, le vieil évier Sévenol et le carré de bois aux angles arrondis, suspendu à la branche de l'arbre au filet, se lance pour rien. Carré roulant dans le creux de la pierre de granit, suit l'enfant qui fait de même. Il anticipe le geste pour rien. Dans le son sourd, l'entendre rouler, bloc millénaire de la pierre d'encre, sans voix articulée, s'enchevêtre ici à lui, fait sa place, cette place participe du commun orphelin, le partage orphelin, son même et réversible face.
Merci beaucoup. Jean-Louis Giovannini, la parole, la question que posait Deligny, hein, la parole appartient-elle à quelqu'un? Alors cette question-là et bien d'autres, hein, je me demandais si j'imagine que Deligny a compté également pour vous, en tout cas que cette figure-là a compté et dans votre vie d'assistant social en milieu psychiatrique. Et je pense aussi au fait que vous avez mis en place des ateliers d'écriture avec des autistes. Hein, pour vous, quelle aura été la leçon de Deligny? Est-ce qu'elle passe par votre vie professionnelle seulement ou est-ce qu'elle s'est invitée aussi dans toutes les questions que votre propre langue pose au langage?
Moi, ce qui me frappe dans la lecture de Deligny, c'est en fait, il essaye de saisir le langage. Non pas, je parle pas de la langue, là, le langage corporel, physique. C'est-à-dire, il y aurait d'autres façons de dire, de faire, mais j'allais dire de trajet, puisqu'il faut le faire le chemin. Hein, pour être à côté de l'autiste. Pour
le moindre geste, hein, comme dit oui. Le titre.
Là, il y a une position très importante. Et c'est le sujet est au centre sujet donc qui a des difficultés là, puisque c'est un autisme et où ça peut être un schizophrène. D'un seul coup, on se dit, il a quelque chose à m'apprendre. Voilà. Deligny, c'est une modestie incroyable, mais je pense aussi à toute la psychothérapie institutionnelle, à Chéniaud, à Oury, Bonafé, Tosquelles. C'est-à-dire que le malade, il fait partie de l'humain. L'autiste aussi, il fait partie. C'est une façon d'être au monde. Et donc, il va falloir que je comprenne qu'est-ce que c'est que d'être au monde comme ça. C'est ce que fait Deligny. Et en suivant, il se dit, tiens, finalement, il dessine un chemin. Si je le fais avec lui, peut-être je vais pas comprendre totalement. Je ne suis pas lui, hein. Mais peut-être que je vais pouvoir approcher. Je vais peut-être avoir un mode d'échange. Et il y arrive. Enfin, ainsi que les éducateurs et éducatrices qui sont avec lui. Et je pense que c'est ça. Il me semble qu'à notre époque, on est en train de perdre un peu de ça. C'est-à-dire que on a affaire à une psychiatrie complètement déshumanisée et qui ne, où le sujet malade ou on peut l'appeler comme on veut, n'est plus au centre. Or que il est riche de quelque chose. Voilà. Il est riche de quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir comprendre? Dans mon métier d'assistant social, c'est ça que je me disais. Est-ce que je parle la même langue que la personne qui me dit telle chose? Finalement, c'était des problèmes sociaux, mais on parle des problèmes sociaux. Mais quelle importance ça a pour le sujet, lui, ce problème social? Qu'est-ce que ça fait dans sa tête? Vous voyez, comment il le vit? Et ça, c'est en train de quelque chose qui est en train de disparaître, puisqu'il faut aller vite. Je veux dire, Deligny, c'est presque l'art de la lenteur. C'est très lent, hein, accompagné sur des mois, des années, hein, quelquefois, les allées et venues des autistes pour saisir, d'où aussi la position d'être extrêmement attentif, donc de ne pas déconsidérer l'autre. C'est Deligny. Par son temps à dire que ces sujets-là ont quelque chose à nous apprendre. Enfin, il le dit pas comme ça, évidemment, mais et c'est ça qui est au centre de. Et ça, évidemment, ça a été très important pour moi dans mon travail. J'ai eu la chance de travailler avec une grande dame de la psychiatrie, Madame Chéniaud, Hélène Chéniaud, qui faisait partie de la psychothérapie institutionnelle et qui est pour moi mon maître, parce qu'elle m'a appris à regarder, à entendre, à approcher ce qui fait peur, hein, la maladie mentale fait peur, hein, c'est l'autisme aussi fait peur, enfin cet autisme-là. Enfin, mais en tout cas, c'est d'une richesse incroyable, effectivement.
Emmanuel Laugier, Jean-Louis Giovannoni, merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de cette émission. À la préparation, Thierry Beauchamp. Je me suis un peu trompée, pardon. À la préparation, Thierry Beauchamp, à la réalisation, François Connac, à la technique, je suis désolée, je me souviens. Nasser Moussaoui, je suis vraiment désolée. Merci Nasser Moussaoui. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et j'en profite pour signaler la parution d'un excellent numéro de la Revue des sciences humaines consacré à Jean-Louis Giovannoni, avec la participation d'ailleurs d'Emmanuel Laugier. Et on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.